RCF Auvergne.
La grande émission.
Chloé Vernet.
Bonjour à tous et bienvenue dans la grande émission sur RCF en Auvergne. Aujourd'hui, on s'intéresse à notre planète et aux bienfaits de la bio sur les dérèglements climatiques. C'est le thème d'une conférence qui vous est proposée par l'association Nature et Progrès Auvergne, qui devait participer ce week-end à une foire bio à Blanzat. Alors pas d'événement en présentiel en raison de la situation sanitaire, avec des conférences. Mais ces conférences, eh bien, elles sont sur notre antenne. Et pour animer cette émission, je suis avec Justine Planck. Bonjour Justine.
Bonjour Chloé.
Alors dans nos studios aujourd'hui, deux invités.
Eliane Anglaré, secrétaire de Nature et Progrès, et Soliane Gilly, étudiante à Vétagrosup et en stage au sein de l'association. Elle va nous présenter son mémoire avec ce thème, le bio face au dérèglement climatique.
La grande émission démarre tout de suite, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes les deux.
Et merci de votre accueil.
Alors Eliane Anglaré, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Nature et Progrès Auvergne?
Ah oui, tout à fait. C'est un groupe de la Fédération Nature et Progrès. Nature et Progrès est une association qui existe depuis 1964, qui réunit des producteurs, des transformateurs, mais aussi des consommateurs, qui recherchent à mettre en œuvre des modèles alternatifs et résilients à l'agro-industrie, celui d'une agriculture biologique et paysanne. Les produits sont garantis par un SPG, système participatif de garantie, qui implique producteurs et consommateurs. Et notre projet de société contribue à alimenter les débats sur les finalités des progrès techniques, scientifiques, pour l'amélioration collective des pratiques, le partage des savoirs, savoir-faire dans le domaine agricole et agroalimentaire.
Alors, vous allez nous parler des effets positifs du bio sur les changements climatiques. Aujourd'hui, ces changements climatiques sont au cœur des préoccupations des agriculteurs.
Absolument. Beaucoup d'agriculteurs se préoccupent de ces changements climatiques, soit par ces changements sont vus, entre autres, en particulier par la sécheresse, la diminution de la pluie dans nos régions. Des changements aussi dans la période. On voit maintenant la végétation pratiquement ne plus s'arrêter en hiver ou s'arrêter, mais repartir très vite, d'où les gelées un peu du mois d'avril, voire du mois de mai, détruisent les cultures. Ça a bien toujours existé, mais sans doute pas au même rythme. On voit des changements aussi dans la densité des phénomènes météorologiques, des orages, des pluies, des grosses pluies. Donc on est vraiment dans des phénomènes de changement climatique qui impactent beaucoup justement l'agriculture et bien sûr derrière notre alimentation.
Oui, vous l'avez dit, hein, les épisodes de gel qu'on a connus il y a peu de temps, là typiquement c'est quelque chose qui n'arrivait pas il y a quelques années ou en tout cas beaucoup moins. Vous sentez cette aggravation de la situation ?
Absolument, on sent cette aggravation de la situation parce que les hivers sont moins froids, donc la végétation s'arrête moins, elle redémarre beaucoup plus tôt et bien sûr quand il y a un gel début avril, eh bien ça des conséquences sur la vigne, les arbres fruitiers, sur la végétation qui ne démarre pas. Mais il y en a toujours eu, mais sans doute de façon plus grave à l'heure actuelle.
Alors, quelles conséquences, justement, par exemple, du gel ?
Ben, les conséquences du gel, c'est que, par exemple, les abricotiers, qui sont des arbres qui fleurissent tôt, donc les petits fruits sont formés et le gel, ils ont beaucoup d'eau. Et le gel va faire éclater ces petits fruits. Et donc, les abricots, eh bien, nous n'en aurons pas de nos régions, peut-être cette année. Donc, ça veut dire que si on veut des abricots, il faudra les importer d'un certain nombre de pays, du fond de l'Espagne, ce qui veut dire transport, ce qui veut dire émissions de gaz à effet de serre, ce qui veut dire aussi, sans doute, des travailleurs qui ne sont pas forcément des gens qui sont bien traités pour nous produire les abricots, par exemple.
C'est tout un engrenage, en fait.
C'est tout un engrenage et c'est vraiment un problème. Je ne dis pas qu'il est vraiment nouveau, il a toujours existé, mais il est en train de s'aggraver.
Et autre conséquence aussi, l'été, la sécheresse qui est de plus en plus forte.
la sécheresse de plus en plus forte, ce qui fait que cette problématique de l'eau est un point extrêmement important dans l'agriculture. Elle l'a toujours été, mais elle l'est encore plus avec nos périodes de sécheresse. Aussi, l'herbe pour approvisionner les animaux, ce qui fait qu'on peut se tourner vers l'idée de faire des stockages d'eau, des grandes bassines, mais on réfléchit pas que si on stocke en bassine, elle va pas ailleurs, que l'évaporation, qui est un phénomène important, fait que l'eau de ces bassines s'évapore. Alors vous me direz, ça fait des nuages et ça peut retomber. Oui, mais ça peut aussi aggraver un certain nombre de problèmes localement pour faire pousser la végétation et nourrir les animaux et les humains.
Alors, à vos côtés, il y a Solène Gilly. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors oui, bonjour. Donc, Solène Gilly, j'ai 21 ans. Je suis actuellement étudiante, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en licence pro ABCD, donc agriculture biologique, conseil et développement. Cette licence se déroule sur trois sites, donc Vetagro, Lucea et Abrioude. Donc, auparavant, pour faire un petit point sur mes études, j'ai commencé par un bac pro à Marmilla, en production horticole. Et après, je me suis tournée vers un BTS agronomie production végétale, histoire d'approfondir le côté théorique de ce qui m'intéressait le plus, donc à savoir la vie du sol, les écosystèmes. Et donc voilà, aujourd'hui, je me retrouve en licence.
Alors, pendant vos stages, vous avez rencontré des exploitants. Est-ce qu'ils sont soucieux de ces dérèglements climatiques ?
Effectivement. Donc, pendant cette année, chez Nature et Progrès, j'ai suivi donc trois fermes avec Eliane. Donc, on a essayé de couvrir toutes les cultures, donc à savoir du maraîchage, de la polyculture et polyélevage et un céréalier.
C'est quoi la polyculture, le polyélevage ?
Alors polyculture, c'est ce qui mélange plus de cultures, et polyélevage, c'est plus d'élevage. Enfin, plusieurs élevages et plusieurs cultures, polyélevage et polyculture.
Et donc du coup, ils sont soucieux de ces dérèglements climatiques, parce que nous a dit Eliane, ça vous l'avez constaté.
C'est ça, donc ils s'interrogent depuis maintenant plusieurs années donc comment s'adapter à ces dérèglements climatiques, car ils ont vu depuis à peu près depuis qu'ils ont commencé que le climat n'était plus le même et qu'il changeait assez vite. Et pour avoir le moins de répercussions possible sur leur culture et eux-mêmes avoir une répercussion moindre sur l'environnement, ils s'interrogent à comment ils peuvent aujourd'hui ne pas impacter l'environnement qui les nourrit, qui nous nourrit et qui est leur source de travail.
Alors le dérèglement climatique, ça les impacte, mais est-ce que c'est pas dû aussi à l'agriculture ?
Eh bien si, effectivement, donc le secteur agricole, c'est aussi le premier à ressentir les effets de changement climatique. Et l'agriculture est très vulnérable à ces variations, tout en étant le secteur à pouvoir en atténuer les effets par la capacité des sols à stocker ce carbone. Mais c'est sûr que c'est les premiers impactés et ceux qui impactent aussi le plus. Donc, mais c'est aussi cette source, c'est par là aussi que ça doit changer, justement.
C'est eux qui peuvent agir.
C'est
aussi.
Ça, c'est ça, exactement.
Alors, vous avez étudié le mode de fonctionnement de trois fermes.
C'est ça. Alors pour vous présenter brièvement les fermes, donc on retrouve une première ferme, la ferme d'Hérault à Gerza, donc qui est installée en agriculture conventionnelle dans un premier temps en 1983. Donc Jean-Sébastien et Chantal, les exploitants, qui ont décidé de planter des haies autour de la ferme pour éviter l'érosion qu'ils avaient déjà constatée en arrivant sur la ferme. Et donc c'est un peu ce qui a éveillé leur confiance en premier et qui les a tournés sur une agriculture biologique, pardon, en 2003 et en 2010, pour les dates un peu fortes, ils ont commencé à planter les premières parcelles en agroforesterie. J'explique un peu ce qu'est l'agroforesterie pour les auditeurs, peut-être. Donc, l'agroforesterie, elle désigne des pratiques associant arbres dans la parcelle avec des cultures. Donc, par exemple, un mélange d'arbres et de prairies, comme les prévergers qui existaient dans les vallées de la Couze, pour ceux qui connaissent. Et cette association présente de nombreux atouts face aux défis environnementaux. On y reviendra peut-être dans l'émission après, où je vous expliquerai plus profondément, c'est pour en poser les bases. Sinon, je suis aussi allée voir le biojardin à Gerza, où j'ai eu la chance de faire un stage en terminale. Et s'ils écoutent un jour cette émission, je les remercie parce que c'était un super stage. Et eux, du coup, ils sont producteurs de légumes bio en pleine terre de Limagne. Et dans la ceinture maraîchère de la zone urbaine clermontoise, ils distribuent des paniers de légumes bio avec des parts supplémentaires. Donc on peut aussi acheter du pain, des œufs, des fruits, et ils font en passer prioritairement des producteurs auvergnats dans leur boutique. Et ils ont une cinquantaine de points de distribution clermontoise pour les paniers.
Alors, il y en a trois.
Il y en a trois, pardon, excusez-moi. J'allais oublier l'ERL de la Pérère à Saint-Saturnin, donc la ferme en polyculture polyélevage, que je vous expliquais tout à l'heure avec un tout petit peu de mal. Donc là, on est avec Jean-Michel Cellier-Courty, qui a repris la ferme familiale en 1978 et a commencé à convertir ses terres sous la mention Nature et Progrès en 1989 pour les grandes dates. Il cultive aujourd'hui 130 hectares de cultures céréalières, dont le blé, le lin, le seigle, le petit égrain épeautre, et il a 60 mères au brac ainsi que des volailles. Et lui, c'est plutôt des productions, enfin des produits locaux en vente directe. Et on va s'intéresser avec lui aux rotations longues sur sa ferme.
Et pourquoi avoir choisi ces trois fermes-là ?
D'abord parce que c'est des pionniers en Auvergne de la bio. Eliane, qui je vais peut-être te donner la parole là-dessus, qui
vous a suggéré ces fermes-là.
Voilà, qui m'a suggéré ces fermes-là. Donc, je te laisse la parole, Eliane, si tu veux plus expliquer.
Alors, bon, oui, effectivement, ce sont des pionniers. Bon, Gilles, au Biojardin, par exemple, il est adhérent à l'association depuis 1981. Même s'il n'était pas encore au Biojardin. Mais le Biojardin s'est constitué en 1997. Un projet un peu utopique, voire considéré sans doute par beaucoup de gens comme farfelu.
C'était très novateur.
C'était très novateur et c'était les premiers à aller vers des circuits courts de distribution. Je dirais même des circuits de proximité. Bon, c'était petit à l'époque, ça a grossi depuis, mais ils ont conservé les fondamentaux de l'agriculture biologique. Ils ont à peu près 17 à 18 hectares au total, mais sur les 17 à 18, seulement 12 sont cultivés en maraîchage et les autres servent pour des rotations, soit avec des engrais verts, soit avec des céréales qui peuvent être récoltées ou au contraire être enfouies dans le sol pour enrichir le sol et donner un sol très vivant pour ensuite cultiver les légumes. Et Jean-Sébastien et Chantal, eux aussi, en 2003, dans la Limagne, allaient vers une agriculture biologique, mais c'était complètement fou. C'était considéré, on va dire, comme des gens qui voulaient revenir à l'ancien temps, qui avaient une vision passéiste. Eh bien, pas du tout. C'est que maintenant, cette vision-là, elle n'est plus du tout passéiste. Quant à Jean-Michel, n'en parlons pas. Je crois qu'à l'époque, son père était très inquiet de le voir passer en agriculture biologique. Et ensuite, il était ravi de voir comment cette ferme s'était développée, comment elle a travaillé localement, parce que tous, ils vont vers une chose, c'est aller le plus loin possible vers la transformation des produits. Eh bien, à la ferme d'Hérault, par exemple, maintenant, les céréales sont transformées en farine et les jeunes qui se sont installés à la suite de Chantal font du pain. Et ils ont un succès remarquable. Jean-Michel Cellier-Courty, lui aussi, transforme beaucoup de ses céréales en farine. Et il vend la farine, il ne transforme pas en pain, il vend la farine, mais beaucoup de boulangers, et des boulangers sous mention Nature et Progrès, viennent lui acheter la farine, que ce soit de blé, de petite épeautre, d'épeautre, de sarrasin, certaines années. Donc on a vraiment des modèles qui, il y a quelques années, étaient considérés comme des gens hors du temps, qui maintenant sont des modèles qui sont reconnus par tout le monde, voire plein de gens disent « comment tu fais ? Comment tu t'en sors ?» Et puis, sur un plan économique, ce sont des gens qui vivent correctement, même s'ils bossent beaucoup, même si ce n'est pas toujours simple, c'est quelquefois dur, surtout quand il y a un coup d'orage qui vient emporter une partie des cultures. Mais justement, le fait d'avoir de la polyculture et des polyélevages, s'il y en a une qui n'a pas fonctionné une année, les autres marchent. Donc on est quand même dans une situation qui fait que malgré tout, on a un revenu. Alors que quand on a très peu de production, deux ou trois, ou juste un élevage, quand il y a un pépin, c'est le pépin sur l'ensemble. Et là, c'est très, très dur.
Et donc des fermes, on peut le dire, qui ont eu du flair, parce qu'avant, c'était considéré comme des vieilles méthodes, et puis aujourd'hui, maintenant, c'est le futur, en fait.
Absolument. je dirais pas du flair, c'est des gens qui, oui, on peut dire du flair, mais qui ont eu une intelligence pour bien réfléchir justement à ces écosystèmes agricoles qui sont le sol, le végétal et l'animal.
Eliane Anglaret et Solène Gilly, on va marquer une première pause musicale avec les 4 saisons de Vivaldi. Les 4 saisons de Vivaldi sur RCF en Auvergne. Et ça tombe bien puisqu'on est au printemps et on parle de la nature aujourd'hui avec nos deux invités, Eliane Anglaret, secrétaire de Nature et Progrès Auvergne, et Solène Gilly, étudiante à Vétagrosup et en stage au sein de l'association.
Alors Solène Gilly, vous avez fait un tableau comparatif des différentes manières de fonctionner des agriculteurs.
C'est ça. Alors je vais vous le présenter aujourd'hui, donc avec les 3 fermes que je vous ai présentées précédemment, donc la ferme d'Hérault, le Biojardin, et le ARL de la Pérère, nous avons étudié donc leur système de fonctionnement, comment ils mettent leur stratégie en place pour s'adapter à ces dérèglements climatiques qui les frappent de plein fouet, surtout en ce moment. Donc on a fait plusieurs thèmes, donc dans un premier temps, les haies. Alors c'est vrai que les haies, ça joue un rôle très important dans l'agriculture parce que ça va être brise-vent, ça va également héberger des auxiliaires de culture donc qui vont être bénéfiques à leur production. Et c'est vrai qu'au moment où les terrains agricoles devaient être de plus en plus grands, les haies ont un peu été mis de côté et ont un peu et beaucoup même été rasées. Et ces agriculteurs se sont donc posé la question, mais pourquoi on n'a plus de haies? Parce que c'est vrai que les parcelles seraient moins grandes, mais mieux protégées et plus fertiles. Donc, ils en ont tous replanté pour le coup. Donc, à la ferme d'Hérault, qui a d'ailleurs été plutôt novateur à cette période, et ils ont du coup, avec la mission Aide Auvergne aussi qu'on a rencontré avec Eliane au cours de cette année, implanter des haies autour de leur parcelle agricole. Le biojardin aussi ont planté 1 km de haies doubles, donc autour des parcelles. Eux, ils ont eu la stratégie d'alterner avec des basses tiges et des hautes tiges pour les variétés mises à l'intérieur de ces haies. Et dans un futur proche, ils voudraient aller sur des haies intermédiaires avec des casiers, on appelle, et des cultures de 1 hectare entourées de ces casiers de haies. Et chez Jean-Michel, tous les prés sont entourés des haies, certaines anciennes qu'il a pu conserver. Et notamment pour lutter contre l'érosion, qui est un phénomène aujourd'hui qui frappe aussi un peu plus quand il n'y a pas d'eau. Donc c'est la terre qui part de ces sols agricoles et qui après est perdue à tout jamais. Et pour remettre de la terre, c'est un peu difficile parce qu'on n'en achète pas. Et du coup, pour éviter cette érosion, ils ont tous fait le choix de planter ces haies.
Mais ça, on ne se rendait pas compte avant, parce que vous m'avez dit les haies ont été largement rasées.
Ben, à l'époque, c'est vrai qu'on était plus dans une dimension de produire, et vu que les machines étaient de plus en plus grandes, les haies prenaient de la place et il fallait laisser passer ces machines. Donc on s'est dit, ça ne nous sert pas, donc allez, on rase. Mais c'est vrai qu'il a fallu un temps pour se dire que ça manquait et pour trouver la solution du problème qui était on n'a plus de haies, comment on a donc moins d'oiseaux, moins d'auxiliaires, donc moins les feuilles aussi qui peuvent tomber à l'automne, qui peuvent créer un paillis sur ces cultures, on l'avait plus, on a le vent qui faisait des dégâts avec l'érosion, plus rien ne stoppait la pluie, retenait l'eau. Donc il a fallu un temps pour comprendre que ça manquait et aujourd'hui, grâce à ces agriculteurs, ils ont pu en remettre sur une partie du territoire et on les remerciera jamais, sûrement jamais assez. Mais voilà pour les haies.
Mais Eliane vous a prouvé, hein, je vous vois hocher de la tête.
Ah oui, ah oui, je l'ai vu dans les années 60, les remembrements, ce qu'on appelait les remembrements. Ceci dit, il y avait sûrement des champs qui étaient tout petits. C'était à la suite des successions, donc chacun avait son petit morceau. Mais on est passé du tout petit ensuite à une suppression totale. Moi, j'ai vu la Limagne disparaître avec son organisation en haies. Et ça, c'est terrible parce que du coup, les vents sont vraiment des vents qui font qu'on emmène, à la fin de l'hiver, on emporte la terre. Mais aussi, ça fragilise la végétation. Et en particulier, quand il y a des phénomènes de gel, comme on a vu là récemment, on se rend bien compte que c'est encore aggravé parce que justement, un petit vent du nord, ça fait que le gel est encore plus impactant sur la végétation. Donc, on est en train de bien prendre conscience que les haies ont leur importance. Alors, je dis bien, pas forcément des champs de 200 mètres carrés, mais entre 200 et 200 hectares, il y a de la nuance.
Qu'est-ce que vous avez pu analyser d'autre sur les trois exploitations, les trois fermes?
Voilà, alors les trois fermes, parce que chez Nature et Progrès, il ne faut pas dire exploitation. Moi, je me suis fait reprendre plusieurs fois au cours de l'année, donc maintenant, j'ai bien intégré la leçon.
On commence à l'intégrer aussi avec Justine.
Voilà, vous allez voir, ça va vite arriver. Hein. À la fin, vous ne direz plus exploitation. Et sinon, on peut remarquer aussi des pratiques alternatives. Donc au biojardin, par exemple, ils ont investi dans une serre à double paroi gonflée avec un toit isolant qui peut faire gagner jusqu'à 5 et 6 degrés l'hiver et en été qui baisse donc cette chaleur. Donc ça, c'est plutôt une pratique innovante et qui apporte une luminosité plus importante dans la serre, donc propice à la végétation. Également, cette serre fait office de récupération d'eau. Donc c'est le projet le plus novateur et le plus moderne qu'on ait sur ce tableau comparatif. Du côté de Jean-Michel Seigny, pour les pratiques alternatives, c'est la diversité des cultures. Donc là, pour sécuriser les rendements, pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc avec une diversité de blé, pour perpétuer cet héritage qu'on lui a donné, et avec plus de 50 variétés, donc dans ces mélanges de cultures. Et également l'utilisation de vinaigre blanc sur toutes les semences de blé pour éviter la carie, donc qui est un problème du blé. Et qu'on trouve quand même que c'est une sacrée pratique alternative parce que faut y penser et justement c'est plutôt très respectueux de l'environnement et c'est le seul traitement qu'il utilise sur ses semences, ce qui est plutôt rare. Sinon, pour parler un peu de l'eau, donc là c'est surtout le biojardin. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'à l'implantation, ils ont décidé de mettre beaucoup d'eau au moment où ils mettent leur culture en terre et après, plus rien ou juste très peu. Bon, pour conserver ces réserves d'eau, également, comme je vous l'ai dit, ils sont en train de avec la nouvelle serre, de faire de la récupération d'eau. Et ils veulent, dans un futur proche aussi, équiper tous leurs bâtiments, donc que ce soit la boutique ou le stockage, en récupération d'eau, parce qu'ils sont bien conscients que les nappes phréatiques s'assèchent de plus en plus et qu'avec les dérèglements climatiques, ça ne peut faire que s'empirer. Donc avec de la récupération d'eau de pluie. Et sinon, avec un système de goutte à goutte sur quelques cultures. Donc là, pour que la plante bénéficie de toute l'eau qu'on lui donne. Donc avec un système de goutte à goutte, elle va tout assimiler et il n'y aura ainsi pas de gaspillage d'eau. Donc comme je vous le disais dans un premier temps, beaucoup d'eau à l'implantation et après plus rien. Donc ça, ils le font depuis pas longtemps, mais ils se rendent compte que ça marche plutôt bien, donc ils veulent continuer à le faire. Et sinon, chez Jean-Michel Cellier, il a décidé de mettre aucune irrigation sur une partie de ses terrains à Chadra, car c'est un terrain fort séchant, et vu qu'il ne mettait pas d'irrigation, il s'est dit « qu'est-ce que je peux faire ?» Et donc là, il a réfléchi, et c'est là qu'il a installé son poulailler. Donc vous voyez, il y a vraiment une énergie de réfléchir au terrain, à l'aspect, à tout l'environnement, et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut amener. Sinon, pour le sol, là, c'est la ferme des Roses, surtout, dont on va parler, parce qu'ils sont depuis maintenant plus de 10 ans en non-labour. Donc le labour qui consiste à retourner la terre plus ou moins en profondeur. Et donc pour la ferme des Roues, ils ont décidé de ne plus en faire. Donc là, c'est une décision propre à chacun. C'est aussi un sujet qui divise un peu, même beaucoup en ce moment. Je regardais Liane qui me fait beaucoup, mais oui, elle a raison. Parce que alors c'est oui, est-ce qu'on laboure, est-ce qu'on laboure pas, est-ce que ça peut se labourer tout seul, est-ce que... Donc eux, ils ont pris la décision de ne plus labourer. Donc ça se passe très bien. Après, faut savoir que le non-labour, ça peut se faire sur ça peut pas se faire chez tout le monde non plus. C'est que faut aussi le préparer. Une terre qui a subi de l'engrais et du labour pendant 30 ans, on peut pas ne plus la labourer comme ça du jour au lendemain. Ça n'aura pas les mêmes résultats, bien sûr. Mais par exemple, on a une alternative chez Jean-Michel Cellier qui, eux, font très peu de labour ou un travail superficiel du sol et qui vont labourer une année sur trois pour justement après peut-être engendrer sur ce non-labour ou continuer à le faire une année sur trois, mais qui n'en abuse pas. Et au Biojardin, il laboure pour le maraîchage parce qu'ils estiment en avoir besoin, mais c'est pas un jugement superficiel. Et oui, on peut aller à des labours à jusqu'à 40 cm, mais c'est pas du tout ce qui se passe ni au Biojardin, ni chez Jean-Michel. C'est des labours que très superficiels.
Il n'y a rien d'exagéré.
Ils savent, ils ont plutôt conscience de pas le faire profondément, et c'est le plus important. Et quand ils le font, c'est raisonné et raisonnable. Sinon, au niveau de l'agroforesterie, donc là, c'est encore les trois fermes, hein, l'agroforesterie, qui arrivent plutôt en tête même du classement, parce que donc, comme je vous l'ai dit, à la ferme des Roues, qui a commencé en 2010, pour implanter des arbres sur leur parcelle, cultivés à long terme pour vendre en bois de chauffage, donc les arbres implantés sur ces cultures. Et il y a au total une dizaine d'essences d'arbres implantées, et donc cela représente 20-25 arbres par hectare, donc c'est quand même pas mal. Je vous expliquerai un peu les bienfaits de l'agroforesterie sur ce dérèglement climatique juste après mon tableau comparatif. Sinon, au Biojardin et chez Jean-Michel, ils aimeraient en avoir plus. Après, par exemple, au Biojardin, ils sont pas propriétaires de leur terre. Donc c'est vrai qu'ils peuvent pas faire non plus ce qu'ils veulent. Donc ils aimeraient beaucoup avoir plus d'arbres dans les parcelles pour avoir ce système d'ombrage. Et le facteur limitant, c'est de pas pouvoir s'agrandir en agroforesterie parce que c'est pas leur terre, tout simplement. Et qu'un arbre, c'est quand même 30 ans, quoi. Donc, faut quand même bien réfléchir à où on le met. C'est pas une petite culture annuelle. Et chez Jean-Michel, il ménage les arbres sur ses parcelles, surtout pour son bétail, parce que faut aussi donner de l'ombre à ses aubraques qui supportent bien la chaleur, mais il sait combien les étés sont de plus en plus durs. Il l'a vu, il l'a constaté avec ses bêtes et le problème majeur chez Jean-Michel au niveau de ses bêtes, c'est l'alimentation en eau. Parce que c'est vrai que l'été, il a 9 tonnes à eau et ça lui demande énormément de travail d'approvisionnement. Et c'est de plus en plus conséquent. Sinon, on a les engrais verts. Donc, au Biojardin, l'implantation des engrais verts pour ne jamais laisser un sol nu. Donc, c'est ce que m'expliquait Gilles Lèbre, le grand patron, le grand chef du Biojardin. Donc, il ne voulait jamais laisser son sol nu et une culture... Et donc mettre une culture sur chaque terre, donc d'où les engrais verts qui vont après être enfouis, ou être détruits et apporter des nutriments dans le sol. On peut le voir avec si c'est une fabacée, ça apportera de l'azote dans le sol, qui est une famille de plantes. Et sinon, chez Jean-Michel Sédier, c'est les rotations. Donc là, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et donc, une légumineuse en tête de rotation pour apporter de l'azote dans le sol disponible aux cultures suivantes. Et les rotations sont très longues chez Jean-Michel. Des fois, on peut parler de rotation de 2 à 3 ans. Chez Jean-Michel, c'est jusqu'à 12 ans. Donc c'est vraiment une stratégie, une réflexion qui n'est pas anodine. Sinon, toutes les fermes, comme je vous le disais tout à l'heure, distribuent en circuit court. Donc, par exemple, à la ferme d'Hérault, environ 200 volailles sont vendues en vente directe sur la ferme une fois par mois. Donc, justement, Jean-Sébastien, pendant mon entretien, m'expliquait qu'il y avait de plus en plus de demandes de ces volailles. Mais il n'avait pas forcément envie d'agrandir parce que ça serait contraire, justement, à cette stratégie. Et que si ça devient trop important, ce serait trop, après, industriel. Donc sinon au Biojardin, la vente en circuit court, donc directement sur l'exploitation ou sous le système d'abonnement avec des paniers livrés dans plusieurs dépôts de l'agglomération clermontoise essentiellement. Et chez Jean-Michel Sellier, donc qui nous expliquait que la vente directe depuis des générations sur la ferme, c'était le plus important pour ses parents, même ses grands-parents. Et pour lui qui a voulu reprendre ce système très rapidement, avec donc la vente directe sur la ferme ou à un boulanger voisin. Mais aujourd'hui, il a à peu près un panel de 1000 clients qui sont plus ou moins dans un rayon de 15 kilomètres. Donc c'est quand même plutôt très local. Et lui, justement, il nous expliquait que quand il avait des clients qui venaient de touristes, ou il nous expliquait qu'il leur disait même spontanément, mais vous serez pas mes clients fidèles, et puis j'ai pas l'habitude de traiter avec le bout de la France, donc ce qui est un peu ironique, et il sait exactement ce qu'il veut.
C'est pas du tout son objectif de vendre aux quatre coins du
pays.
Mais
c'est ça, voilà, il en a pas du tout envie.
Je me permets de faire une petite remarque. Tu as parlé de fabacées tout à l'heure, alors peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est ce qu'on appelle aussi des légumineuses.
Voilà.
Le mot de fabacée, c'est un nom qui a été donné récemment. Les légumineuses, ce sont justement ces plantes qui captent l'azote de l'air à travers leur rhizobium qui est installé sur les racines. C'est quelque chose de magnifique dans la nature, dans le vivant, et qui est capable de transformer cet azote de l'air en azote assimilable par les plantes. Donc pas besoin d'engrais de synthèse.
Alors on va marquer une seconde petite pause musicale et puis ensuite on reviendra, Solène Gilly, sur votre tableau comparatif
et
puis ces systèmes résilients avec tout de suite Georges Brassens, Auprès de mon arbre sur RCF.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligot, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie, j'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant. D'avec ma femme, j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne. Valencelle-là, qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y a 107 ans qui dit mieux que j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Vous êtes toujours dans la grande émission sur RCF en Auvergne. Alors nous sommes toujours en compagnie d'Eliane Anglaret, secrétaire de Nature et Progrès, et Solène Gilly, étudiante à Vétagrosup et en stage au sein de l'association. Alors Solène, vous avez comparé le mode de fonctionnement de trois fermes. Aujourd'hui, comment ça se passe dans ce contexte de crise sanitaire ?
Eh bien justement, vous faites bien d'en parler parce que c'est vrai que ça vient aussi l'impact 2020, donc l'impact Covid-19 sur ces fermes avec le confinement. Par exemple, on a vu à la ferme d'Hérault l'accroissement de la demande de volailles en vente directe sur l'exploitation et de plus en plus de demandes croissantes des produits bio ces derniers mois. C'est vrai que tous les agriculteurs l'ont vu. Par exemple, au Biojardin, ils m'ont dit que de plus en plus de ventes de paniers de légumes, une forte consommation de légumes bio, une prise de conscience avec le confinement de cette année. Et Jean-Michel Sellier me disait que les citoyens ont pris cette conscience du local, de la qualité des aliments. Et cette année, il a dû aussi s'adapter, lui, avec sa vente directe, parce que c'est vrai qu'on a que vu que tout le monde était chez eux, ils ont un peu regardé autour d'eux ce que les producteurs d'à côté de chez eux vendaient. Et aussi, il y a une prise de conscience du mieux manger, du prendre soin de soi, de sa santé. Et ça passe évidemment par l'alimentation. Donc cette prise de conscience, on va dire qu'elle arrive au bon moment, justement, là où tout le monde a pu faire une petite pause chez eux et réfléchir à comment mieux manger. Et c'est vrai que ça s'est ressenti sur la production de ces fermes. Si je peux juste faire une petite aparté sur le climat aussi, parce que c'est vrai que cet impact sur le climat, qui est le sujet fort d'aujourd'hui, à la ferme d'Hérault, c'est la protection des cultures contre les chaleurs avec les haies et l'agroforesterie, parce que j'aurai sûrement peut-être pas le temps de vous en parler, mais c'est vrai que l'agroforesterie apporte beaucoup d'ombre, apporte beaucoup une source de fraîcheur en été, justement, pardon. Et sinon, au Biojardin, là, qui est un phénomène un peu plus inquiétant, qui est de décaler les dates des semis. Et ça, c'est plutôt très, très important en ce moment, parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment pas vu avant. Eliane, tu me le confirmeras peut-être après, mais c'est vrai que décaler les dates des semis, et on parle maintenant même au Biojardin de développer des légumes méditerranéens et résistants à la chaleur. Donc Gilles m'expliquait que c'était une super année pour le melon et que pour l'instant, cet impact climatique avait un effet plutôt bénéfique sur leur ferme, parce que plus de tomates, plus de melons, mais à long terme, on pourra vraiment cultiver des légumes méditerranéens en Auvergne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la Limagne n'a quand même jamais vu ça et n'a sûrement peut-être pas envie de le voir. Mais c'est quand même assez important. Et c'est Jean-Michel aussi qui décale ses dates de semis et qui adapte ses choix de races adaptées au climat, comme avec des races robustes comme l'Aubrac. Et donc, c'est vrai que ce changement climatique leur a fait prendre toutes ces décisions et qu'ils sont maintenant, enfin, ils ne peuvent plus trop revenir en arrière. Et c'est un peu ce qui est dommage.
Est-ce qu'on peut vraiment combiner production, productivité et protection de l'environnement, Eliane Anglaret ?
Ah, complètement. Je pense que justement, toutes ces fermes en agriculture biologique et aussi sous mention Nature et Progrès, d'ailleurs, si on existe depuis 1964, c'est pas pour rien. C'était justement proposer des systèmes agricoles qui étaient résilients et qui n'étaient pas du tout dans une vision telle qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire on allait vers l'agro-industrie. Bon, ceci dit, on ne l'a pas supprimé, l'agro-industrie, hein, il y en a encore beaucoup, puisque actuellement en France, on est à environ 8,5% des surfaces agricoles cultivées qui sont en agriculture biologique. La loi Egalim demandait à ce qu'en 2022, on arrive à 15%. On est en 2021. Et on est tout juste à un petit peu plus que 50% des surfaces prévues. Donc il y a encore de la marge de progression.
Encore du chemin à faire.
Du chemin à faire. Elle prévoyait aussi 20% de produits bio dans la restauration collective. On est à environ 4,5, peut-être 5%. Donc on est loin. Et ce que je constate, et puis j'en connais plein, non seulement dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne, mais un peu dans un certain nombre de secteurs de la France, c'est que ces agriculteurs qui, depuis un certain temps, œuvrent à mettre en place un système alternatif à l'agro-industrie, ben, leur système fonctionne. Je ne dis pas que tout est parfait, je ne dis pas que tout marche bien tout le temps, mais on se rend compte que vraiment, ils ont un système qui est résilient et qui peut être copié par plein d'autres. Simplement, c'est qu'il faut avoir une grande capacité de réflexion, de raisonnement, de connaissance de la vie du sol, parce que pendant trop longtemps, et quand j'étais étudiante, puisque j'ai été dans l'enseignement agricole, on nous enseignait que le sol était un support et non pas un milieu vivant. Et maintenant, on est en train de revenir sur cette idée de milieu vivant. Mais les agronomes d'avant, ils étaient conscients que le sol était un milieu vivant. Donc, il faut vraiment s'imprégner de tout ça et ne pas... il faut arriver à ce que les agriculteurs soient des gens autonomes. Moi, je me souviens que mes parents qui étaient agriculteurs, j'aurais aimé être agricultrice. Et on nous disait à l'époque que c'était le dernier des métiers. Que voilà. Et souvent, on n'avait pas vu que c'était des métiers où il fallait des grandes connaissances, où il fallait une grande capacité d'observation. Et donc, je pense que tous ces gens-là qui ont mis en œuvre ces systèmes, eh bien, ils feront partie de ce profil-là. Et je vois qu'un certain nombre de jeunes vraiment s'intéressent. Et je vais dire que ça me fait énormément plaisir de voir que des jeunes sont en train de s'orienter. Même certains quittent des emplois magnifiques d'ingénieurs, même de chercheurs, pour s'installer agriculteurs, parce que ils mettent leur intelligence au service de l'agriculture. Ils mettent leur intelligence au service du vivant et de tous ces écosystèmes pour nous fournir une alimentation de grande qualité.
Or, Solène Gilly, le mot de la fin sera pour vous. Quelle est la conclusion, en quelque sorte, de votre mémoire?
Eh ben, pour la conclusion du mémoire, je vais vous dire quelques mots. Bon, après, je vais laisser un peu de suspense pour ceux qui me corrigeront en juin, mais nous pouvons dire qu'il est possible de pratiquer une agriculture plus respectueuse de l'environnement tout en continuant de produire assez pour que tout le monde ait une alimentation saine. Seulement, il faut pas attendre patiemment plus de dégâts climatiques, réagir maintenant et mettre des produits qualitatifs dans nos assiettes, parce que c'est par l'alimentation que beaucoup de choses passent. Et encourageons le travail de ces producteurs qui tentent de nous montrer ce que pourrait être l'agriculture de demain. Et j'espère que notre message avec Eliane sera passé aujourd'hui. Et merci beaucoup de nous avoir accueillis dans vos locaux.
Oui, Eliane, vous disiez, hein, ça vous fait plaisir de voir que des jeunes s'installent. Vous, Solène, vous êtes aussi une jeune et vous portez ce message-là. C'est aussi important de transmettre justement ce message-là.
Eh ben, c'est sûr. Moi, j'ai des grands-parents qui m'ont appris à produire sainement avec pas des grands hectares, avec une vache, 20 poules, des cultures, beaucoup de cultures qui étaient surtout en autosuffisance et qui m'ont aussi appris à à respecter l'environnement qui nous porte tous les jours et qui nous nourrit. Et je suis très fière aujourd'hui d'être chez Nature et Progrès, parce qu'en un an, j'ai rencontré beaucoup de gens, également avec l'écomac, tu en as parlé en début de cette émission, où on rencontre beaucoup de gens, on se voit, on va les uns chez les autres, on regarde des systèmes de ferme, ce qui marche chez les uns, moins chez les autres. Il y a vraiment une solidarité entre eux et vraiment tout le monde se pousse vers le haut, et je trouve que c'est ça aussi l'agriculture de demain, c'est faire en sorte que ça marche bien chez tout le monde et pour tout le monde, pour les citoyens et les consommateurs qui comptent aussi sur nos producteurs pour avoir une bonne alimentation.
Voilà, et c'est sur ce beau message que se termine votre émission sur RCF en Auvergne. Les bienfaits de la bio sur les dérèglements climatiques. C'était le thème de votre mémoire, Solène, et de cette conférence proposée par Nature et Progrès Auvergne. Merci beaucoup Eliane Anglaret et Solène Gilly d'être venues dans nos studios aujourd'hui. Merci à Justine Planck d'avoir co-animé avec moi cette émission et d'avoir été en plus à la technique. Cette émission est à retrouver et à réécouter sur notre site internet rcf.fr. Très belle journée à tous.
Merci beaucoup de nous avoir accueillis et d'avoir permis de diffuser toutes ces informations, en espérant donner de l'énergie à tout le monde. Et en tout cas, je suis ravie de cette intergénérationnelle sur nos idées et nos pratiques.